Alexandre Dumas, fils, les femmes qui tuent et les femmes qui votent. Si une idée ne produit pas son homme, elle est creuse. Si une idée ne produit plus son homme, elle est morte. Les religions, les philosophies, les politiques, les sciences, les libertés ne se sont pas développées autrement. Regardez bien où l'incarnation fait défaut. Signe de dépérissement et de mort prochaine. Sans aventurer ici dans les grands exemples historiques, présents d'ailleurs à l'esprit de tous nos lecteurs, et pour nous en tenir aux personnages hier inconnus, mis en lumière par de récents procès, Mademoiselle Marie Bière, Mademoiselle Virginie Dumère, Madame de Tilly, que représentent ces personnages ? Sont-ce des êtres isolés, séparés de la vie commune par leur tempérament, leurs mœurs, leurs crimes particuliers et purement individuels? Non. Ce sont des incarnations vivantes, effectives et inconscientes, en même temps, de certaines idées émises par des penseurs, des moralistes, des politiques, des écrivains, des philosophes, idées justes, logiques, tutélaires, auxquelles, de l'aveu de ces hommes de réflexion, le temps est venu de faire droit. Que répond la société française à ces idées présentées seulement sous toutes les formes théoriques et immatérielles? Bien que ceux qui les présentent sont des fous, des rêveurs, des révolutionnaires, des utopistes, des gens dangereux. Ces hommes signalent cependant des dangers visibles. Ils proposent d'indispensables réformes. Ils disent aux législateurs « Vous devriez faire des lois protégeant l'innocence de la jeune fille, la dignité de la femme, la vie de l'enfant, les droits de l'époux, et punissant quelquefois les coupables au lieu de punir toujours les innocents. » Les législateurs ne répondent même pas. Alors, au milieu des observations des uns, de l'indifférence des autres, un fait brutal un jour se produit, un crime se commet, une victime tombe, un assassin se montre, et sans transition apparente, on assiste au déplacement complet de tous les plans sociaux, au renversement de toutes les lois juridiques et morales. La victime devient odieuse, l'assassin devient intéressant, la conscience des jurés s'embarrasse, la magistrature se trouble, la loi hésite, la justice officielle désarme devant la foule qui s'impose comme dans une assemblée populaire ou dans un théâtre. C'est l'incarnation de l'idée qui se dresse tout à coup en face des vieilles traditions obstinées et insuffisantes, et elle vient, par le feu et le sang, poser sa revendication personnelle et nécessaire contre des lois jadis excellentes, mais qui, les mœurs s'étant modifiées, apparaissent subitement comme des injustices et des barbaries. Le meurtrier a-t-il discuté ces questions comme nous le faisons ici? A-t-il lu ce qu'on écrivait sur ces matières avant qu'il commît son crime? Obéit-il à un raisonnement? Non. Il obéit aveuglément à sa passion, ce n'est pas douteux. Mais sa passion satisfaite vient, en plein tribunal, faire appel à un droit naturel, humain, incontestable, dont la société aurait dû tenir compte et dont elle ne s'est pas souciée. L'acquittement des coupables prononcé par le tribunal, imposé par l'opinion, est-il juste? Non. Mais ce qui fait l'acquittement de ces coupables arrêtés, c'est que la loi ne peut pas sévir contre les véritables coupables qu'elle couvre depuis longtemps et que ne pouvant pas appliquer la justice absolue, elle est condamnée, elle, la loi, à n'appliquer que la justice relative, ce qui est bien près de l'injustice. Vous vous rappelez sans doute l'affaire Morambat, il y a 3 ou 4 ans. J'écrivais à ce propos dans l'Opinion nationale une lettre comme celle-ci. J'y annonçais l'acquittement inévitable du meurtrier et je demandais à la loi de protéger la virginité des filles, virginité que j'appelais leur capitale. Le mot fit beaucoup rire. Toujours, en France, nous rions beaucoup des choses sérieuses. C'est même de celle-là, je crois, pouvoir l'affirmer, qu'on rit le plus. Moi, C'est un goût particulier. J'aime mieux rire des choses qui ne sont pas sérieuses et qui n'ont pas moins la prétention de l'être, mais ma conscience se trouve ainsi en repos. Je suis sûr d'avoir plus longtemps des sujets de gaieté et d'avoir finalement raison. Vive le rire, mon cher ami, quand il ne se trompe pas. Si j'évoque aujourd'hui cette affaire Moramba, c'est pour m'aider à montrer les incarnations successives, variées, de plus en plus rapprochées les unes des autres, de plus en plus menaçantes et triomphantes, de l'idée proposée de certaines réformes dans de certaines lois. Cette affaire se résumait ainsi, soyez tranquille, je serai bref. Une jeune fille, ouvrière laborieuse et d'une conduite irréprochable jusque-là, s'était laissée, faut-il dire, séduire, disons plutôt entraînée, par un jeune homme, commis dans le magasin où elle était en apprentissage, et elle était devenue enceinte, ce que voyant, le jeune homme l'avait abandonnée. Voilà le commencement et le milieu de l'histoire. C'est vieux, c'est banal, c'est connu. Le soleil aussi est vieux, banal, connu. Il reparaît toujours et on ne s'en déshabitue pas. Mais il passe tout à coup par l'esprit, par le cœur, par la conscience du père de la jeune fille, de modifier le dénouement traditionnel, aussi vieux, aussi banal, aussi connu que le soleil et les buts de l'histoire, et qui consistait pour la jeune fille à se désoler, à cacher sa honte dans un coin, à élever son enfant avec ses seules ressources, ou à lui tordre le cou, à se tuer elle-même ou à se prostituer. Tout cela parce que le Code avait oublié de faire une loi qui protégeât le capital moral des femmes comme le capital matériel, et qui condamnât un homme qui leur aurait pris leur honneur comme elle condamnerait le voleur qui leur aurait pris leur montre ou leur parapluie. Il advint donc, cette fois, une chose nouvelle. Le père de Mademoiselle Moramba se trouvait être un très honnête ouvrier. Il adorait sa fille et il ne permit pas aux choses de finir selon sa coutume. Il cacha un couteau sous son vêtement, s'en alla trouver le commis, lui demanda s'il voulait épouser sa fille et sur les refus réitérés de celui-ci, il le frappa en pleine poitrine. La vie du jeune homme fut en danger. On arrêta l'assassin, grande émotion dans Paris, instruction, procès. Si vous voulez bien donner un peu d'attention à ce cas particulier, mon cher ami, vous y remarquerez facilement un fait curieux. Dans ce procès, prévenu, plaignant, victime, tout le monde était coupable. Et nanti de toutes les lois imaginables pour punir tous les attentats possibles, la justice a dû s'avouer publiquement impuissante et inutile. Voyons comment. Nous voici dans la salle de la cour d'assises. Rien n'y manque pour que le droit soit respecté, pour que l'équité rayonne, pour que la solennité soit imposante, pour que la leçon soit profitable. Foule énorme avec sergent de ville pour la contenir et au besoin la disperser si elle manque de respect au tribunal, si elle proteste ou si elle applaudit. Gendarmes aux deux côtés de l'accusé pour qu'il ne puisse ni s'enfuir, ni sauter sur les juges, ni se suicider. Avocats réunis autour de la cause pour s'éclairer dans leur conscience et leur art comme des carabins autour d'un cadavre dans un amphithéâtre d'anatomie, conseillers en robe rouge, avocat général chargé de soutenir l'accusation et de venger la morale et la société compromise, avocat célèbre à la barre de la défense, ayant mission de défendre et de sauver le prévenu, jury choisi au sort parmi les citoyens les plus recommandables de leur quartier, peinture allégorique représentant le crime terrassé, l'innocence protégée, Thémis en péplum bleu et blanc, tenant en équilibre les deux plateaux de sa balance. Enfin, au fond de la salle, en face du public, des témoins, du jury et des accusés, au-dessus des juges et de tout, le Christ mourant pour la justice et la vérité, et sur lequel les témoins et jurés vont faire le serment, les uns de ne dire que la vérité, rien que la vérité, les autres de n'avoir en vue que la justice, rien que la justice. Ceci posé, donnons en quelques mots le résumé philosophique et les conclusions morales du procès. La loi, représentée par le président, s'adressant à la jeune fille. Mademoiselle, vous étiez une personne honnête et laborieuse, tout le monde l'atteste. La jeune fille. Oui, monsieur. Vous avez été séduite par ce jeune homme. Oui, monsieur. Il vous avait promis le mariage. Oui, monsieur. Il vous a abandonné. Oui, monsieur. Quand il a su que vous étiez enceinte. Oui, monsieur. C'est bien de lui que vous étiez enceinte. Oui, monsieur. Vous le jurez. Oui, monsieur. Et vous avez causé le désespoir et le crime de votre père. Vous allez mettre au monde un enfant sans père, sans état civil, probablement sans morale et sans instruction, puisque vous êtes sans ressources. Enfant qui va être un danger ou une charge pour la société. Tout cela parce que vous n'avez pas su résister à votre passion. Mais c'est abominable ce que vous avez fait là. Mais nous n'y pouvons rien. Rasseyez-vous. Qu'on amène le jeune homme. La loi au jeune homme. Vous avez été l'amant de cette jeune fille ? Le jeune homme. Oui, monsieur. Vous étiez le premier ? Oui, monsieur. Elle est enceinte de vous ? Le jeune homme, après hésitation. Oui, monsieur. Vous refusez de l'épouser ? Oui, monsieur. Vous refusez de reconnaître votre enfant ? Oui, monsieur. Vous avez déshonoré une jeune fille, vous l'abandonnez ainsi que votre enfant, mais c'est abominable ce que vous faites là. Nous n'y pouvons rien. Asseyez-vous. Faites lever le père. La loi au père. Vous reconnaissez que vous avez voulu tuer ce jeune homme ? Oui, monsieur. Parce qu'il avait séduit votre fille ? Oui, monsieur. Alors, vous avez pris un couteau ? Oui, monsieur. Avec l'intention de tuer cet homme, s'il vous refusait d'épouser votre fille ? Oui, monsieur. Avec préméditation, alors ? Oui, monsieur. Et vous l'avez frappé avec la ferme intention de lui donner la mort ? Oui, monsieur. Vous avez voulu vous faire justice vous-même, ce qui est défendu par toutes les lois. Vous avez voulu tuer, ce qui est défendu par toutes les morales humaines et divines. Vous avez frappé d'un couteau, vous avez accompli volontairement, sans hésitation, sans remords, un homicide, un crime, ce qui doit être puni de l'échafaud ou des galères. C'est abominable ce que vous avez fait là, mais nous n'y pouvons rien. Ne vous asseyez pas. Oh, vous pouvez tous rentrer chez vous. Alors, magistrats, jurys, gendarmes, huissiers, code civil, justice, allégorie mythologique, menaçante et rassurante, Christ en croix, mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi c'est tout ça pareil inutile, toute cette solennité vide, toute cette dépense, tout ce dérangement ? Ces trois individus coupables, tous les trois, de délits et de crimes, qui compromettent non seulement leur propre honneur, leur propre morale, mais la morale universelle et la sécurité des citoyens électeurs. Pourquoi les renvoyez-vous finalement chez eux, sans condamnation, sans flétrissure, sans amende même ? Parce que, me répondrez-vous, c'est là un cas exceptionnel. Cette jeune fille était vraiment sympathique par sa bonne conduite antérieure. Le père, par l'honnêteté de toute sa vie, il n'a pas pu résister à sa douleur et à sa colère devant la froide ingratitude et la cynique cruauté de ce jeune homme. Nous l'avons compris et nous l'avons acquitté. Non, Ces raisons-là, vous les donnez parce que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas donner les vraies raisons. Les vraies raisons, les voici. Ne pouvant pas punir les vrais coupables, vous êtes fatalement amené à absoudre ceux dont le crime n'est que la conséquence directe de cette culpabilité, non seulement impunie, mais dont, dans certains cas, il ne vous est pas permis de connaître, dont il vous est interdit de faire mention, que vous devez respecter en un mot, qui vous est sacré, pour ainsi dire, comme la réputation la plus intacte, comme le dogme le plus révéré. Il est tel cas où vous n'avez même pas le droit de prononcer le nom du véritable coupable, et vous ne pouvez punir que l'innocent, et même la victime. J'ai assisté, il y a 2 ou 3 ans, à un procès criminel où la coupable, du moins la personne amenée à la barre, était une jeune femme. Elle s'était mariée, enceinte, avec un jeune homme, lequel ignorait absolument ce détail. Elle accoucha à terme, sans que son mari se fût douté de cette grossesse, et en l'absence de ce mari. Elle se délivra elle-même, puis elle perdit la tête et tua son enfant, dont elle cacha le corps dans une armoire. Le crime fut découvert et la jeune femme arrêtée et traduite devant les assises. L'homme qui l'avait rendue mère était marié, c'est-à-dire doublement coupable. Il l'avait eue sous sa protection, ce qui le rendait triplement coupable. Il l'avait garantie comme la plus honnête fille du monde au jeune homme lorsque celui-ci était venu lui demander des renseignements, ce qui le constituait quadruplement coupable. Ni l'accusé, ni l'accusation, ni la défense n'avaient le droit de prononcer le nom de cet homme, le premier et le seul coupable, parce que la recherche de la paternité est interdite par nos lois. Cet homme était négociant, et s'il n'avait pas payé un de ses billets, vous lui auriez saisi ses meubles et tout ce qu'il possédait. Vous l'auriez déclaré en faillite frauduleuse, si ses livres n'avaient pas été bien en règle, et vous l'auriez condamné à la prison. Et il avait trahi le mariage, trahi la tutelle, trahi la confiance d'un honnête homme, donné le jour à un enfant illégitime. Il était la cause d'un meurtre, du meurtre de son propre enfant. L'action qu'il avait commise amenait la femme qu'il avait dite aimer sur les bancs de la cour d'assises, la faisait condamner aux galères, car elle fut condamnée. Condamner le mari de cette femme à la honte, au désespoir, au ridicule, au célibat, à la stérilité, à n'avoir plus d'épouse légale, à n'avoir plus d'enfant légitime. Et vous ne pouviez rien contre le vrai coupable, à peine le réprimander, dans le vide et encore anonyme. S'il plaisait à ce coupable de se reconnaître dans ce que j'écris en ce moment, il pourrait m'attaquer en diffamation, et je ne pourrais pas faire la preuve, et vous me condamneriez comme diffamateur, probablement à 1 franc d'amende, ce qui ne serait pas cher, mais ce qui serait encore une condamnation supérieure à celle que vous pouviez lui infliger. Mais qu'avez-vous donc véritablement puni du double crime commis par cet homme et par cette fille ? Celui qui n'en avait commis aucun, le mari, l'honnête homme, l'innocent. L'amant n'a même pas été inquiété. L'infanticide, son temps fait, redeviendra libre et très probablement, elle n'aura fait que la moitié de son temps, si elle est ce qu'on appelle bien conduite depuis son emprisonnement. Quant au mari, à qui vous n'avez rien à reprocher que d'avoir eu confiance, que d'avoir voulu aimer selon les lois, d'avoir voulu constituer la famille, le foyer, l'exemple, ce qui est recommandé par toutes les religions et toutes les morales, dont vous vous déclarez les défenseurs, il reste et demeure éternellement la victime de cet homme adultère et de cette femme infanticide. Et si demain, il avait un enfant d'une autre femme que celle-là, vous condamneriez cet enfant d'avoir jamais ni famille régulière, ni nom légal, à moins que sa mère n'eût l'idée, comme l'autre, de le tuer, auquel cas le mari, devenu à son tour adultère et père illégal et dénaturé, n'encourait comme coupable aucune des peines qui lui ont été infligées comme innocent. Vous me répondrez encore Oh, ce sont là des exceptions très rares dont la loi n'a pas à tenir compte. Mais où avez-vous vu cela? Le caractère fondamental, la propriété spécifique d'une loi, font que même une seule injustice ne puisse pas être commise en son nom. Et tant que cette injustice peut être commise, cette loi est incomplète, par conséquent insuffisante, de là à préjudiciable, et le premier venu, comme moi, peut l'attaquer et en demander la révision. Et comme cette révision demandée ne se fait pas, les faits, depuis quelques années que ces questions ont été de plus en plus débattues par l'opinion publique, les faits concluant en faveur de cette révision se succèdent et se précipitent les uns sur les autres. Les incarnations se multiplient avec une rapidité, une éloquence, un retentissement, une plus-value de scandale effrayant. Et la Providence paraît être absolument décidée à vous forcer la main. Du reste, pour les vrais observateurs, ce qu'on appelle la Providence a des procédés qui devraient commencer à être connus. Quand une société ne voit pas ou ne veut pas voir ce qu'elle doit faire, cette Providence le lui indique d'abord par de petits accidents symptomatiques et facilement remédiables. Puis, l'indifférence ou l'aveuglement persistant, elle renouvelle ses indications par des phénomènes périodiques, se rapprochant de plus en plus les uns des autres, s'accentuant de plus en plus, jusqu'à quelques catastrophes d'une démonstration tellement claire qu'elle ne laisse aucun doute sur les volontés de la dite Providence. Ah, c'est alors que la société imprévoyante s'étonne, s'épouvante, crie à la fatalité, à l'injustice des choses, et se décide à comprendre. Ce qui est encore à constater au milieu de tout cela, c'est l'obstination que mettent non seulement la masse des gens, mais les hommes chargés de veiller à la moralité et au salut des sociétés, à donner pour cause aux drames et aux crimes nés de l'insuffisance des lois, les examens, les propositions philosophiques que tout au contraire, cette insuffisance inspire à certains esprits. Pour tous les routiniers et les auteurs de la démoralisation sociale sont ceux qui la découvrent ou la dénoncent à l'avance. Quand on a dit à une société « Prends garde, si tu continues tels ou tels errements, tu provoqueras telle ou telle catastrophe », on est, pour cette société qui ne veut pas reconnaître ses torts, la cause même de cette catastrophe le jour où elle se produit. L'Église catholique en est encore à nous dire que ce sont les abominables passions et les détestables conseils de Luther qui ont fait tant de mal au catholicisme. Elle oublie de se rappeler ou de rechercher les causes qui ont produit Luther et nécessité la réforme. Les défenseurs de la monarchie de droit divin et des traditions féodales nous disent que c'est l'esprit diabolique de Voltaire et des encyclopédistes qui a produit la révolution et les excès du XVIIIe siècle. Ils se gardent bien de reconnaître et d'avouer les faits qui ont suscité les attaques de Voltaire et de l'encyclopédie. Même observation en littérature. Ce sont les écrivains qui écrivent contre les mœurs immorales de leur temps, qui démoralisent leur temps. On commence par prétendre que le mal dont ils parlent n'existe pas. Puis, quand il est notoire, oh, que ce sont leurs écrits qui l'ont fait naître, puis, quand ils gagnent de plus en plus, qu'il vaut mieux n'en rien dire. Ainsi, celui qui écrit ces lignes, oh, formule ingénieuse, trouvée par un grand orgueilleux qui n'osait pas dire « moi » aussi souvent qu'il l'aurait voulu, ainsi celui qui écrit ces lignes a, de cette façon, beaucoup contribué à la démoralisation de son époque. Seulement, ceux qui emploient le mot « démoralisation » à propos de moi ou de tout autre, l'emploient à tort et le confondent souvent, trompés qu'ils sont par un phénomène purement extérieur, avec un autre mot qui, du reste, n'existe pas et que l'on ferait peut-être bien de créer. Une société dont on dit qu'elle se démoralise, ce que l'on a dit d'ailleurs de toutes les sociétés depuis que le monde existe, une société qui se démoralise n'est pas toujours une société qui modifie sa morale, mais une société qui modifie ses mœurs, ce qui n'est pas la même chose, et ce qui est même à l'avantage de la morale éternelle, dont on ne peut pas plus supprimer un des principes fondamentaux qu'on ne peut supprimer un des éléments qui composent l'air respirable. Aucun révolutionnaire, aucun novateur, aucun radical n'aura jamais l'idée de proclamer que l'on doit, que l'on peut tuer, voler, manquer à sa parole d'honneur, séduire les jeunes filles, abandonner sa femme, délaisser ses enfants, renier, trahir et vendre sa patrie. Celui qui soutiendrait une pareille thèse passerait pour fou, et tout le monde lui tournerait le dos. La morale ne s'adhère donc pas, mais elle s'élargit, elle se développe, elle se répand. Et pour cela, elle brise ses formules étroites et partiales, dans lesquelles étaient inégalement contenues et dosées, et qu'on appelle les mœurs et les lois. Les esprits, soi-disant révolutionnaires ou subversifs, sont ceux qui aident la morale éternelle, inaliénable, à briser ses formules particulières, locales, à se frayer un chemin à travers les plaines stériles qu'elle doit fertiliser. Quand nous demandons par exemple la recherche de la paternité ou le divorce ou le rétablissement des tours, c'est-à-dire que les innocents ne souffrent plus pour les coupables, quand alors il s'élève des clameurs contre nous, ce n'est pas la morale qui s'indigne, car ce que nous demandons est de la morale la plus élémentaire. Ce sont les mœurs et les lois qui s'effraient. Nous avons contre nous les Loveless de toute classe, pour qui ces mœurs et ces lois sont un privilège dont leur égoïsme et leur passion peuvent user sans représailles. Les prud'hommes de tout rang, pour lesquels le monde finit à leurs habitudes, à leurs traditions, à leurs idées, à leurs familles, et qui ne se sentant pas atteints et convaincus qu'ils ne pourront jamais l'être par les calamités que ces mœurs produisent, ne voient pas qu'il y ait lieu de changer quoi que ce soit aux lois qui les protègent. Nous avons encore contre nous les ignorants qui ne veulent rien apprendre, les hypocrites qui ne veulent rien avouer, les gens de foi et même de bonne foi qui croient leur Dieu compromis dès qu'on leur parle d'un progrès en contradiction avec leurs dogmes religieux, les timides qui ont peur d'un changement, les contribuables qui redoutent une dépense. Autrement dit, nous avons contre nous les 99 centièmes de nos compatriotes, mais c'est aucune importance puisque le centième auquel nous appartenons depuis le commencement du monde a fait faire aux 99 autres toutes les réformes dont ils se trouvent d'ailleurs très bien aujourd'hui, tout en protestant contre celles qu'il reste à faire. C'est par suite de tout ce malentendu que, sur la signification et la valeur réelle des institutions, des faits et des mots, qu'après l'acquittement de Mademoiselle Marie Bière, un conseiller à la cour, qui avait assisté au débat à côté de celui qui écrit ces lignes, disait à ce dernier, d'une voix véritablement émue, avec l'accent amical mais convaincu du reproche et de l'inquiétude, voilà pourtant ce dont vous êtes cause avec votre tu-là.